France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Saviez-vous que c'est Bernadette Chirac, habituée des dîners à l'Élysée du temps du général de Gaulle, qui a demandé à ce qu'on revienne à la configuration historique des grands dîners d'État, avec un plan de table à la façon du général? Cuisine moderne ou plat en sauce, vous saurez tout du protocole de la République et des préférences de ceux qui nous gouvernent, en pénétrant dans les cuisines de l'Élysée, une vaste salle de 30 mètres de long qu'ont arpenté Séverine Liattard, Anne Fleury et Charlotte Roux pour produire ce documentaire. « Dis-moi ce qu'on mange à l'Élysée, je te dirai ce qu'est la France », un documentaire qui avait été diffusé sur France Culture le 5 janvier 2010, dans une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des repas.
Dis-moi comment l'on mange à l'Élysée, je te dirai ce qu'est la France.
Déjeuner offert par Monsieur le Président de la République et Madame Georges Pompidou, ambassade de France, mardi 13 octobre 1970. Homard à l'armoricaine, riz créole, filet de charolais rôti, bouquetière de légumes, cœur de laitue, fromage, poire Belle-Hélène, Corton Charlemagne 1967, Château Léoville Barton 1961, Laurent Perrier Grand Siècle.
Joël Normand, chef des cuisines de l'Élysée, de 1984 à 2004.
On est obligé de s'adapter au goût du président, même si ça ne nous plaît pas. On est obligé de s'adapter. À l'Élysée, si le président veut des plats en sauce, on est obligé de faire des plats en sauce. S'ils veulent que ce soit de la cuisine moderne, nouvelle, on est obligé de s'adapter. Mais ça a évolué beaucoup. Si on repart sur le général de Gaulle, c'était un homme qui aime une cuisine très très simple, cuisine de maison bourgeoise, mais petite maison bourgeoise. Ensuite, avec Monsieur Pompidou, ça commence à évoluer, qui lui aimait un peu de la cuisine un peu plus sophistiquée, mais toujours mijotée, surtout de la cuisine du terroir. Bœuf aux carottes, blanquettes, trucs comme ça. Mais bon, sur les dîners d'État, évidemment, ça a toujours été une cuisine quand même relativement maison bourgeoise. Si on prend d'autres présidents, Giscard d'Estaing, c'était une cuisine nouvelle. Et après, quand on saute sur les autres présidents, Mitterrand, c'était pas encore la même cuisine. On retombait un petit peu sur de la cuisine simple, mais mijotée. Il avait horreur de choses... trop sophistiqué, d'abord ça l'énervait, même simplement un morceau de persil sur un plat qu'on lui mettait ou dans son assiette, il le poussait, il a l'air de dire ça me plaît pas ça. Et puis après, Monsieur Chirac, on retombait sur de la cuisine un petit peu de Pompidou, une cuisine mijotée, un osso bucco,
pareil.
Voilà, exactement, c'était ça. Mais si on regarde la cuisine, ça c'est de la cuisine pour l'ensemble de l'année. Si on tombe dans la cuisine dîner officielle, là, c'est toujours été dans la même gamme.
La cuisine de l'Élysée suit la mode de son temps et celle de ses présidents. Le repas est un subtil outil politique, un art de gouverner. Les cuisines de l'Élysée s'inscrivent ainsi dans le droit fil de la cuisine de cour. Les mets servis sont parmi les meilleurs, les plats comme les vins extrêmement raffinés, la table d'un luxe constant. Deux chefs et 20 cuisiniers officient dans les sous-sols de l'Élysée pour nourrir le président et sa famille. préparer des déjeuners de travail ou offrir des dîners d'État. Les repas offerts par le pouvoir suprême sont ainsi l'objet de toutes les attentions et de toutes les précautions. Ils doivent incarner la grandeur de la France, impressionner les invités de marque, séduire les convives ou apaiser certaines tensions diplomatiques. René Coty reçoit la reine Elisabeth II. 8 avril 1957.
Vous décrire les cuisines de l'Élysée n'est pas chose très commode. Imaginez simplement que nous soyons dans une vaste pièce rectangulaire d'une trentaine de mètres où les cuisinières et tout le matériel est moderne, en aluminium, sauf la batterie de cuisine qui date, elle, de Louis-Philippe, car j'ai sous les yeux des casseroles et des couvertes de casseroles même qui sont signées Louis-Philippe, Fontainebleau 1845, Louis-Philippe, Compiègne 1845. Mais il y a ici plusieurs chefs, dont le chef-chef, si j'ose dire, qui est monsieur...
Cormier Bernard.
Bernard Cormier. Dites-moi, la venue de Sa Majesté la Reine Élisabeth doit offrir quelques perturbations dans vos cuisines. D'abord, est-ce que ça a nécessité de l'embauche ?
Oui, ça a nécessité l'embauche d'une dizaine de personnes en supplément.
Une dizaine de chefs ?
Oui.
Et choisis...
Oui, des bons, très bons chefs.
Parmi les meilleurs. Naturellement, ouais. Il faut que la France justifie...
Soit renommée la bonne cuisine française.
La bonne cuisine française.
Dans les cuisines de l'Élysée, avec son chef Bernard Vaussion, assisté de Guillaume Gomez.
Alors Bernard Vaussion, Guillaume Gomez, nous sommes donc dans les cuisines de l'Élysée. Mmh,
oui.
Alors il faut décrire ce lieu qui est un espace assez grand. Hein. J'ai lu 500, 600 mètres carrés,
avec
la totalité.
Avec les annexes, hein, parce qu'il y a plein de petites pièces autres où on arrive les légumes le matin, où on fait le chocolat, on fait plusieurs choses. Donc. Mais la pièce principale, c'est celle-ci qui est quand même assez grande, c'est vrai.
Alors, on pourrait juste décrire, elle est composée. Alors,
la partie pâtisserie, en fait, où nous sommes actuellement. Et après, de l'autre côté de ce petit mur, la partie cuisine, la partie salée, hein, la partie chaude.
D'accord, donc voilà. Il y a les fours.
Les fours, les étuves, le grillade, salamandre, enfin tout un équipement normal d'une grande cuisine. Quoi. Mmh. Alors, les casseroles sont utilisées, bien sûr, tous les jours. Hein, ils datent de 1845. Des cuivres, en fait, et on n'a pas d'autres...
Vous cuisinez qu'avec des cuivres
que des cuivres anciens comme ça, oui. On a la chance de travailler dans des beaux cuivres.
Et cette cuisine, donc Bernard Vaussion, elle a été refaite, je crois, en 1987
7, exactement. Voilà.
Qui a pris cette initiative
La vétusté. Hein, c'est une cuisine qui avait une quarantaine d'années d'âge, donc il était temps de faire remettre aux normes un petit peu au niveau technique, surtout. Quoi.
Et alors, comment est-ce que vous avez procédé pour l'élaboration des menus, très exactement ? On vous a fait appeler ?
On m'a fait appeler, j'ai fait 3 menus. On en a choisi un parmi ces trois, Madame le Maréchal avec Monsieur le Président et le protocole qui a donné son avis sur les menus.
C'est ça. Et ces menus comportent quel plat ?
Le menu déjeuner comporte le melon au porto, le poulet grillé fermière, les asperges de loris sauce mousseline et la corbeille de fruits. Et le menu du dîner comporte le bar du golfe amiral, le riz pilaf, la selle d'agneau de Béhague au primeur, les foie gras des Landes au raisin, la salade Vendôme, les ananas glacés marinés et les petits fours.
Enfin, deux repas essentiellement français et assez simples au fond à réaliser.
Oui, parce qu'on a demandé, et la reine a demandé de faire des repas assez légers.
Un dîner d'État, ça a toujours été un velouté, un consommé en entrée. Après, on avait une entrée chaude aussi ou froide en fonction de la saison. Un plat de viande, un plat de légumes, fromage et dessert. Et le tout servi en 55 minutes, chrono.
Joël Normand, chef des cuisines de l'Élysée et meilleur ouvrier de France, de 1984 à 2004.
Vous, Joël Normand, vous entrez dans ces cuisines de l'Élysée au moment de De Gaulle, en 65, je crois, en 1965.
En 65, oui, en 65.
Et vous entrez comme commis, en fait.
Je suis rentré comme commis, pas très longtemps d'ailleurs, puisque je suis passé sous chef de cuisine 2 mois après, à peu près. Mais à l'époque, on était très nombreux, pas nombreux en cuisine, on n'était que 6. Et évidemment, après, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à arriver au titre de chef de cuisine. On a augmenté le personnel, puisque quand j'ai quitté mes fonctions, on était 24 en cuisine. Tout le personnel confondu, plongeur, pâtissier, cuisinier.
Aux visites des souverains britanniques, Il y a un certain nombre de pièces montées que vous allez avoir.
Oui, principalement une grande pièce montée qui représentera les lions britanniques soutenant le globe, l'amitié franco-anglaise.
Et qui sera servie à quel moment ?
Qui sera mis à l'occasion du déjeuner et qui restera en place jusqu'au dîner.
Elle est prévue pour combien de consommateurs, si j'ose dire ?
Ah ben, c'est pas une pièce entièrement consommable, c'est surtout pour le.
Ah, c'est surtout
une pièce
pour
de pâtisserie pour le spectacle.
Mais personne
le coup d'œil.
Ah, c'est pour le coup d'œil.
Parfait princesse, biscuits mousseline ardéchoise, sauce pralinée, charlotte aux pommes, vacherin givré à l'ananas, pêche à la sultane, coupe grand marnier, nougatine glacée aux pruneaux.
Francis Loiget, pâtissier aux cuisines de l'Élysée, de 1962 à 2005.
C'est-à-dire, moi, je voulais travailler en maison bourgeoise, après mon apprentissage. Et mon père connaissait le chef de chez Rothschild, à l'abbaye de Royaumont, qui est à côté, là. Et comme ce chef de chez Rothschild connaissait le chef de l'Élysée, et j'ai eu la chance qu'il cherche un commis. Et c'est là que je suis rentré à l'Élysée, comme commis. 43 ans, j'ai fait. Je suis rentré en 62, je suis parti en 2005. C'est parti des meubles, quoi.
Et la place du dessert, Francis Loiget, dans le repas ?
Bah, c'est important parce que, en principe, c'est le premier plat qui compte et le dernier. Enfin, bien sûr que celui qui suit, il faut qu'il soit bien aussi. Hein, faut pas... Mais bon, les gens, ils arrivent, ils voient une présentation formidable. Oh, déjà, ils sont déjà un peu... Et quand ils partent sur un dessert qui est vraiment beau et bon, bien sûr, il faut qu'il soit bon aussi, hein, mais... Déjà, les gens, ils partent. Oh, c'était très bien. Le dessert, par exemple, il serait complètement loupé. La réception n'était pas bien, quoi.
Il faut bien commencer et bien finir.
Voilà, moi, je pense que c'est ça. Et surtout que moi, quand j'avais... On avait décidé de mettre des lumières dans les desserts. Ça, c'était autant de... On a commencé avec Pompidou, ça. Et après, ça, c'est, on a évolué aussi dans les lumières pour les desserts avec Giscard. C'est-à-dire, tous les lustres, on baissait l'intensité des lustres, et il ne restait plus que les candélabres avec les bougies qui étaient allumées sur les tables. Donc, bien sûr, la première fois, les gens se sont criés, ils ont dit, tiens, il y a une panne. Et tous les maîtres d'hôtel arrivaient, il y avait quand même 20 maîtres d'hôtel qui arrivaient comme ça, avec toutes les lumières. Eux, ils sont en noir, il n'y avait que les desserts qui étaient allumés. Et quand ils arrivaient à la table présidentielle, les lumières se rallumaient. Et souvent, là, les gens applaudissaient.
Donc, il y a toute une mise en scène,
Et ça plaisait pas mal parce que. Alors, moi, j'étais avec M. Normand, Joël Normand. Moi, j'ai accompagné mes desserts, bien sûr, pour pas. S'il y avait de la casse ou s'il y avait quelque chose, quelqu'un qui aurait touché un petit peu au dessert. Et je voyais le départ, et on regardait derrière le rideau. Et quand on voyait les gens qui applaudissaient, hop, on se regardait tous les deux, et bon, on a réussi. La réception, c'est bon.
Le 8 avril 1957, René Coty reçoit la reine Élisabeth II.
Ici Raymond Marcillac qui vous parle effectivement de l'Élysée. Et au moment, Michel Péricard, où vous me passez l'antenne, je franchis la porte qui me sépare de la salle des fêtes où se tient ce dîner officiel qui est offert, vous le savez, ce soir par M. René Coty, président de la République, à Sa Majesté la reine Élisabeth et à Son Altesse Royale le prince Philippe. Vous ne connaissez sans doute pas la salle des fêtes de l'Élysée. C'est une salle des fêtes qui m'éblouit un peu ce soir, car elle est brillamment éclairée par les nombreux lustres somptueux qui pendent du plafond. C'est d'ailleurs une salle extrêmement somptueuse qui est décorée de tapisseries rouges et également de tapisseries qui ont été exécutées sur des cartons d'Audran et qui représentent des scènes de la vie d'Esther et de la vie d'Athalie.
Il y a plusieurs types de repas et de dîners. Les cuisines de l'Élysée doivent s'occuper à la fois des repas privés et des repas à la fois...
Des repas d'affaires qu'on peut considérer comme ça, un semi-officiel.
Camille Davenne, intendant de l'Élysée sous François Mitterrand, de 1985 à 1995.
Il y a aussi des repas d'amis. Hein, donc il y a le privé, pur privé, donc, qui se passe à l'étage, hein, dans les appartements privés. Donc là, c'est quelques repas, c'est la famille. Ensuite, il y a semi-privé qui se passe donc au rez-de-chaussée des appartements privés dans la salle à manger Pompidou, hein, qui est toujours en place. Donc là, c'est du privé au niveau protocolaire, mais il s'y passe aussi des opérations qui peuvent avoir un caractère politique ou semi-politique.
Et puis, il y a les grandes réceptions. Alors,
c'est dans le bâtiment central. Ça va du déjeuner entretien avec un chef d'État ou un premier ministre, avec un roi, une reine. Et là, c'est toujours dans le bâtiment central. C'est aux portraits, aux ambassadeurs principalement. Rarement au salon Pompadour ou au salon des ambassadeurs.
Joël Normand.
Un dîner d'État, c'est le président reçoit un président étranger, quel qu'il soit, président, un roi ou une reine. Donc automatiquement, c'est plutôt c'est ce qu'on appelle le dîner gala. Il n'y a pas de grande discussion, on ne parle pas tellement politique à mon avis. C'est un honneur de recevoir, que la France reçoit un président étranger, ça s'arrête là.
Combien de personnes, Joël Normand ?
En général, on est sur un dîner d'État, c'est 240 couverts. Alors 240 couverts, vous voyez, servis en 55 minutes, et, comme on dit, il faut speeder, hein, faut pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Le président a horreur d'attendre. Un président, s'il attendait 3 minutes entre les plats, c'était un maximum.
Et donc ça avait lieu, je crois, la plupart d'entre eux, dans la salle des fêtes, c'est ça
C'est toujours, les dîners d'État ont toujours lieu dans la salle des fêtes. Alors, ça a varié. Au début, avec le général de Gaulle, c'était les grandes tables, la grande table longue. Après, ils ont fait des tables en U. Ça a duré avec, uniquement avec Monsieur Mitterrand, où ils ont changé un peu le système, ils ont fait des petites tables. Ils arrivaient à faire des dîners d'État avec des tables de 8. Et M. Chirac a remis en place, enfin surtout Mme Chirac, a souhaité à ce qu'on refasse comme c'était à l'époque du général de Gaulle. Parce qu'elle a toujours précisé du général de Gaulle, puisqu'elle était à l'époque invitée aussi sous le général de Gaulle. Donc elle trouvait que c'était plus grandiose, ça faisait plus dîner gala. Et c'est vrai, dans le sens, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que le président étant servi en premier, les derniers servis... Parce que automatiquement, si vous avez 240 personnes, ça fait 24 services. Donc ce sont des services de 10. Il faut attendre qu'on démarre de servir le président pour que les maîtres d'hôtel, après, servent les autres. Et ceux qui se trouvent en bout, puisque ça marche un petit peu protocolairement parlant, ça marche
hiérarchique.
Donc ceux qui sont en bout de table, complètement en bout de la table de U, ils sont servis, si vous aimez mieux, un peu plus tard peut-être. Et des fois, ils n'ont même pas le temps de manger, qu'il faut déjà débarrasser. C'est le président, dès l'instant qu'il a fini...
On enchaîne avec le
automatiquement, on débarrasse.
On débarrasse, on enchaîne avec
même si les gens... Alors, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de bavarder, ils n'ont pas tellement le temps, il faut qu'ils mangent. Alors, des fois, on se posait même des questions. Même moi, je me posais des questions en me disant, mais est-ce qu'ils ont le temps vraiment de déguster? Est-ce qu'ils ont le temps de voir? Est-ce qu'ils ont le temps de... Je ne pense pas.
Les convives sont au nombre ce soir de 214. Ils sont de part et d'autre d'une table qui a la forme d'un fer à cheval. Et à la table d'honneur se trouve au centre le président de la République, ayant à sa droite Sa Majesté la Reine Elisabeth, à la droite de Sa Majesté la Reine Monsieur Le Troqueur, puis Mary Duchesse de Devonshire, puis Monsieur Monerville, puis la Baronne Guillaume, puis le très honorable Selwyn Loy. À gauche du président de la République se tiennent dans l'ordre Son Altesse Royale le Prince Philippe, Madame Monerville, Monseigneur Marella, Madame Émile Roche et Monsieur Guy Mollet, président du Conseil.
Le protocole fait en sorte que tout soit au point, selon la hiérarchie des visites.
André Gadeau, chef du protocole de l'Élysée sous François Mitterrand.
C'est-à-dire la forme du repas ou des repas d'État, des repas privés, pour d'autres visites moins importantes, il y a d'autres modalités. Alors, dans le repas, vous avez, en fonction de la hiérarchie des visites, vous avez, au titre de la préparation dont est chargé le protocole, les invitations. Alors, le protocole prépare les invitations avec les directions politiques, et ensuite met en ordre les listes qui sont passées au filtre du conseiller diplomatique et ensuite du secrétariat général. Ensuite, ça va au président de la République, et quand le président de la République a accepté ou modifié les listes, elles reviennent au protocole pour exécution. Donc on fait les invitations, on fait le collationnement des réponses, et donc on prépare les invitations définitives. Alors ensuite, le protocole fait les plans de table, en fonction de ses propres catégories, qui sont toujours les mêmes, si vous voulez, l'ordre hiérarchique, la disposition des... une espèce de tentative d'équilibre entre les sexes, si possible, si on sait quelle langue parlent les uns et les autres, on peut les rapprocher, et puis surtout, une grande table est l'occasion d'inviter des gens qui représentent un spectre large de la vie française, si vous voulez, les forces culturelles, les forces économiques, financières, scientifiques, l'Académie française, enfin oui, tout ce qu'on peut imaginer. Alors ça, on fait le plan de table en fonction de ce que le président de la République a arrêté. Puis ensuite, il y a l'exécution proprement dite, si vous voulez, en fonction, encore une fois, de la hiérarchie des visites. Pour les visites d'État, vous avez un certain nombre de préconisations sur les honneurs qui sont rendus à celui qui arrive, le nombre de cavaliers, la fanfare de la garde républicaine s'il y a un passage en vue, les cavaliers sur le perron, l'accueil des invités. Ensuite, on fait venir, quand on annonce l'arrivée des invités, le président de la République et son épouse se rapproche de la vestibule d'honneur, le chef du protocole accueille les invités au bas des marches, les mène au président de la République et son épouse, qui gagne le salon des ambassadeurs, où les apéritifs sont servis pour un tout petit nombre, si vous voulez, le président, son épouse, les présidents de l'Assemblée, le président du Conseil constitutionnel, il y a un certain nombre d'autres autorités. Et pendant ce temps-là aussi, le protocole amène les autres invités à qui on donne des plans de table dans un autre salon pour préparer les présentations. Et puis ensuite, on passe à table, étant entendu qu'on passe à table quand les présentations sont faites et que tous les invités sont placés, si vous voulez. Alors là... où ça marche, où ça marche pas, où on arrive à parler, on n'arrive pas à parler. L'idée n'étant pas de faire un dîner joyeux, l'idée étant de faire un dîner protocolaire, n'est-ce pas ? Alors évidemment, une table très, très fleurie, tout ce qui est linge est absolument superbe, la vaisselle aussi, l'argenterie aussi, et le menu est en général... de très haute qualité, bien sûr.
Filet de canette et foie gras au vinaigre balsamique. Ragoût de fruits de mer, blanquette de veau à l'ancienne. Baron de Pauillac rôti aux herbes fraîches de Provence. Caneton en gelée Montmorency. Homard breton et escalope de bar au concombre. Turbo soufflé amiral, gigue de chevreuil grand veneur, sel d'agneau au girole, caille de vigne au musigny.
Comment est ornée cette table? Eh bien, elle est magnifiquement ornée d'une nappe de linon très fin qui est décorée de chardons de fil d'or. Les services qui a servi, si je puis dire, au dîner de ce soir est un service de Sèvres, caprère au début, et actuellement c'est un service d'oiseaux et de paysages pour le dessert, car on vient de présenter...
Alors, le repas lui-même commence par... Il y a évidemment les tours de photographes et de télévision, et ensuite il y a le toast.
Voilé Marilly. Je vous dirai tout à l'heure comment s'est déroulé ce menu, mais pour l'instant, je voudrais continuer à vous décrire cette table somptueuse. Mais j'aperçois M. René Coty qui se lève et qui prend la parole.
Le duc d'Edimbourg ont, mieux que tout discours, exprimé le respectueux hommage d'affection du peuple français à la très gracieuse souveraine auréolée de la couronne la plus prestigieuse. Déjà, il y a 9 ans, le printemps nous avait apporté la joie d'accueillir à Paris une jeune et radieuse princesse qui, ainsi que son noble époux, vaillant combattant de la Royal Navy.
On comprend bien, donc, André Gadeau, on est vraiment dans la mise en scène, hein, du repas, la théâtralité.
On met dans la mise en pratique, avec toujours la philosophie, enfin, que le protocole, c'est l'absence de désordre. C'est-à-dire, tout le monde doit être à l'aise, tout le monde doit être placé comme il faut, tout le monde doit savoir quand il faut se lever, quand il faut dîner, etc. Et il faut que tout paraisse naturel, vous voyez, alors que rien ne l'est. Mais il faut que tout paraisse naturel parce que tout est préparé.
La reine ayant donné l'autorisation de s'asseoir, tous les convives s'assoient. Monsieur maintenant et elle seule reste debout.
Je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Vos paroles nous ont rappelé à tous deux des souvenirs qui nous sont chers. En cette même saison, au printemps de 1948, nous avons eu la joie d'être reçus à Paris à l'occasion de notre toute première visite ensemble, au dehors de notre propre pays.
Et selon la personnalité qui vient, Joël Normand, qui est invitée ou la réception est donnée en l'honneur de la reine d'Angleterre, par exemple, j'imagine qu'il y a aussi une hiérarchie, justement, dans les menus, dans ce qui est proposé.
La qualité est toujours la même. La seule chose qui changeait, c'était les présentations. On forçait beaucoup plus sur les présentations sur un roi, une reine, ou un président américain, ou un président russe, par rapport à d'autres pays qui sont un président, je ne vais pas citer spécialement des présidents parce que je ne veux pas... Mais les présidents ou les rois ou des reines d'une grande importance, automatiquement, nous, on marquait un petit peu notre travail. C'est-à-dire, on augmentait un petit peu les présentations, d'ailleurs, même sur les présentations dans les desserts. On essayait de faire des drapeaux, les drapeaux en sucre du pays. Dans les décors, on essayait de marier les couleurs du drapeau du pays, même dans les plats. J'essayais toujours de faire des présentations où la personnalité retrouvait les couleurs de son pays, si vous aimez mieux.
Et puis il y a le vin.
Oui, mais le vin. Alors le vin, c'était pas mon domaine. Dès l'instant que le président avait choisi les propositions de menu, c'était le caviste qui adaptait les vins en fonction du menu que le président avait choisi.
Monsieur le président, je lève mon verre en votre honneur et je bois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés. Puisse la confiance et la compréhension mutuelle entre la République française et le Royaume-Uni durer toujours.
Château Latour 1978, Côte-Rôtie-la-Mouline 1992, Don Ruinard 1986, Chambertin 1964, Meursault-Goutte d'Or 1971, Chablis Premier Cru La Fourchaune 1982, Château Pichon-Longueville 1959, Riesling Clos-Saint-Une 1964, Château Margaux 1962, Clos-d'Estournelle 1976, Nuit-l'Écaille 1972.
Vous, votre rôle, c'est aussi de transmettre au président des propositions de menu.
Le premier septennat...
Camille Daven, intendant de l'Élysée sous François Mitterrand.
Il ne voulait pas voir, ça s'arrangeait entre l'intendant et le chef cuisinier. Donc là, on essayait de faire varier les menus en fonction des invités. On regardait quel était le dernier menu qu'ils avaient eu, parce que ces gens-là reviennent plusieurs fois, même si c'est dans des temps très longs. Donc on regardait pour ne pas leur faire le même menu. Et puis, en fonction un peu des goûts du président aussi, on s'arrangeait pour que les menus soient différents. Et puis, à sa réélection, on s'est dit, bon, j'en ai marre que vous me fassiez manger toujours la même chose. Et il faudrait que ça change. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, si vous le souhaitez, on peut vous soumettre des propositions. Il m'a dit, oui, c'est très bien. Donc, tout le deuxième septennat, Joël Normand me faisait des propositions que je transmettais au président. Moyennant quoi, c'est lui qui choisissait toujours la même chose. Mais on était dégagé des responsabilités.
Tous les convives se sont levés comme après les paroles prononcées. par le président de la République et porte le toast proposé par la reine. Je pense que vous aimeriez savoir comment est habillée la reine ce soir. J'ai pu à loisir la contempler pendant qu'elle était debout et j'ai pu admirer sa gentillesse, sa grâce et également la splendide robe qu'elle porte. Mais je voudrais vous signaler tout d'abord qu'elle porte le grand cordon de la Légion d'honneur qui barre sa poitrine et un splendide diadème. La reine porte ce soir une robe de satin ivoire et j'ai pu remarquer que la jupe était ample alors que le corsage est ajusté. Le corsage laisse voir une partie des épaules. La magnificence de cette robe est donnée par des broderies qui évoquent des fleurs des champs de France. Le corsage et la jupe sont en effet couverts de coquelicots, de bleuets, de marguerites sur fond d'épis de blé. Et de ci, de là, il y a également des abeilles d'or qui, comme vous le savez, sont l'emblème napoléonien.
D'abord, la page repas est une page normale, avec des pierres, je dirais régulière.
André Gadeau, chef du protocole de l'Élysée sous François Mitterrand.
Et qui fait partie de l'image de la France, puisque on n'a pas l'habitude de recevoir sans un repas. La question s'est posée une année où nous avions des relations très difficiles avec l'Iran, qui était celui de Roménie, et où on a repris progressivement, après une affaire compliquée qui a beaucoup envenimé les relations, les dites relations, mais la délégation iranienne qui venait à Paris ne voulait pas voir de vin. Boire, naturellement, ce que nous comprenons très bien, mais ne voulait pas en voir sur la table. Et finalement, voulait forcer les Français qui recevaient à ne pas recevoir à la française, vous voyez. Donc, il y a eu des tractations, et puis ça n'a pas abouti. Finalement, avec l'accord du chef de l'État, on a décidé de faire une mission diplomatique, mais sans repas. Vous voyez. On n'a pas cédé là-dessus. Donc, voilà l'importance symbolique du repas, si vous voulez. Et naturellement, le repas doit être représentatif de la manière de recevoir la française, de la cuisine française, tout en tenant compte, bien entendu, des interdits ou des goûts de nos invités. Bien entendu, il peut y avoir des invités qui sont végétariens, il peut y avoir des invités musulmans qui ne veulent pas boire de vin, etc., ni manger de porc, bien entendu. Enfin, tout ça, on en tient compte, et ces questions-là sont réglées au moment des missions préparatoires, si vous voulez, par le protocole, et les missions préparatoires de la partie invitée.
Les interdits alimentaires, bon, ça peut avoir des incidences politiques donc, et diplomatiques. Donc, on faisait très attention, surtout bon, à tout ce qui touche au kasher. Hein, c'est très compliqué.
Quand venaient, par exemple, le déjeuner ou dîner des rabbins, etc.
Voilà, donc là, il fallait être vigilant. Donc, j'ai dû faire venir, d'abord, être plus instruit au niveau de la réglementation kasher. Donc, je m'étais rapproché du rabbinat de Paris, qui m'a envoyé des rabbins, et là, compliqué quand même. Hein. Et j'avais découvert que si on ne mettait pas de viande, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait. Donc, on avait fini par proposer au président que des fruits de mer ou poissons à chaque
c'était
fois.
C'était plus simple, quoi.
C'était beaucoup plus simple. J'ai dû faire une note un jour, parce que le président ne comprenait pas pourquoi on lui proposait que du poisson. Donc, je lui avais expliqué pourquoi, et il avait dit, bon, ok, quoi, on ne change rien.
Et au point de vue sécurité, il n'y a pas de sécurité proprement dit. Il n'y a pas de goûteur comme dans le temps. Dans le temps, il y avait des goûteurs. À l'époque des rois, tout ça, il y avait un goûteur. Mais chez nous, il n'y a pas de goûteur. Le goûteur, bah, c'était tous les cuisiniers. C'était le chef, c'était tous les cuisiniers. Donc, mais en règle générale, comment elle avait des fournisseurs de confiance. Donc, il n'y avait aucun problème de ce côté-là.
Il n'y en a jamais eu de soupçons.
Il n'y a jamais eu ni d'intoxication alimentaire. Heureusement, je touche du bois. On n'a jamais eu d'intoxication alimentaire, quoique ça aurait pu arriver, mais on n'a jamais eu d'intoxication alimentaire, on n'a jamais eu de problème au point de vue empoisonnement où quelqu'un aurait fait quelque chose. Non, ça n'existe plus maintenant. Par contre, on avait des fois certains pays comme la Russie, où une personnalité du président qui était nommée pour venir goûter. Mais c'était très rare. Très très rare. Très rare.
Enfin, des chutes de boutons d'or sont figurées par des pétales détachés de perles et d'or avec des cœurs en joyaux. Vous entendez actuellement la symphonie de la garde républicaine qui a joué pendant tout le repas et qui a comme chef ce soir le commandant François-Julien Brun. Et son Altesse Royale, le prince Philippe, porte un habit, un simple habit, avec de nombreuses décorations et également le grand cordon de la Légion d'honneur. Mais tout à l'heure, avant que le président de la République prenne la parole, j'étais en train de vous décrire la table et je voudrais continuer cette description. Elle ne sera pas longue, mais je crois qu'elle vaut la peine. Je vous disais que la table.
Je pense que la France, du côté de la gastronomie, est un grand pays où on est vraiment, dans le monde entier, on est reconnu.
Camille Daven, intendant de l'Élysée sous François Mitterrand, de 1985 à 1995.
On ne peut pas recevoir en France comme on reçoit aux États-Unis ou en Allemagne ou au Japon. On a une culture. Cette culture, on doit la défendre. Et je fais partie de ceux qui s'insurgent contre le fait qu'aujourd'hui, on pinaille sur les moyens qu'on met en place pour le président de la République. La France a un savoir-faire. Et par le biais de ces opérations de prestige alimentaire, certes, on dit ben, pourquoi recevoir, offrir du foie gras, offrir des grandes bouteilles. Mais c'est le savoir-faire français. Les chefs d'étoiles qu'on reçoit n'ont pas le temps d'aller dans un grand restaurant, de goûter la cuisine de nos grands chefs. La France doit donner le meilleur de soi-même quand on reçoit.
Il y a quand même une gestion à faire et on ne peut pas tout se permettre non plus.
Tout à fait. Il n'est pas question d'abord de gaspiller. C'est une maison qui ne contrôle pas avant. L'Élysée, c'est très difficile de faire un budget à l'Élysée. On ne peut pas dire au mois de novembre à un président, bah, écoutez, il n'y a plus de sous dans les caisses, donc vous ne recevez plus. Il est prisonnier du calendrier politique national et international. Et ce calendrier n'est pas maîtrisé, donc il est difficile de faire un budget. C'est impossible de faire un budget à la présidence de la République, étant entendu qu'on ne pourrait pas dire à un chef d'État, ben non, vous n'êtes pas, on n'a plus les moyens de vous recevoir, c'est vraiment impossible. C'est incongru, quand on parle, pour moi, quand on parle de budget de président de la République, c'est aller aux côtés de la plaque, c'est pas l'objet. Si on veut faire des économies, c'est pas là.
Cœur de laitue, bouquetière de légumes, château Latour 1978, vacherin givré à l'ananas, baron de Pauillac rôti aux herbes fraîches de Provence, pêche à la sultane, caille de vigne au musigny.
Alors, vous suivez aussi le président en voyage.
Oui, hein,
et donc on a suivi. Bon, manière aussi d'exporter la gastronomie française, hein, puisque le président offre d'une certaine manière un repas.
C'est-à-dire il rend l'invitation, que lui l'a invité, il rend à l'ambassade de France ou à la résidence de l'ambassadeur.
Francis Loiget.
Alors on emmenait tout, parce qu'il y avait toute une liste de ce qui manquait, on emmenait tous les casseroles, on emmenait tout, l'argenterie, les plats, toute la vaisselle, enfin, grosse partie. Ça nous faisait quand même un gros truc. Il y avait tout un staff qui se déplaçait et on rendait l'invitation. On a fait tout l'heure. Moi, j'ai fait 30 pays dans le monde entier. Le dernier voyage qu'on avait fait, c'était avec Mitterrand à Hanoï. On avait 200, plus de 200 couverts.
À 6, vous faites 200 couverts.
Oui, mais on prépare une bonne partie à Paris. Tout est stabilisé, tout est en sous-vide. Parce que bon, on n'a pas droit à l'erreur là-bas. On ne peut pas aller au marché d'aller chercher quelque chose parce que tous les menus sont faits déjà à Paris. On ne peut plus changer. Quoi. On n'avait pas de budget pour ça. Bon, le chef était libre de mettre du turbo, à part le caviar, parce que le caviar c'est trop cher. Mais bon, le foie gras, le filet de bœuf, enfin tous les denrées assez chères. On n'avait pas de budget, mais bon, par contre, on faisait attention à la marchandise. Mettons, À chaque réception, bien sûr, il y avait des restes. Mais tous les restes étaient pour le lendemain, pour le personnel. Il n'y a eu aucune perte. Bon, après, bien sûr, tous les mois, il faisait son... bien sûr, le service financier, il faisait quand même dire, attendez, je vous dépensais un peu trop. Bon, alors après, il jouait sur autre chose, mais ça dépendait des menus. Hein. Il y avait des menus qui étaient plus chers les uns des autres. Bien sûr, au personnel, il n'allait pas mettre des... je sais pas, moi, du turbo ou des poissons très chers. Et mettre un filet de merlan.
Camille Davaine, intendant de l'Élysée sous François Mitterrand, de 1985 à 1995.
C'est plus compliqué lorsque on est au bout du monde. J'ai vu au Vietnam, on a fait un déjeuner retour sous tente dans la cour de l'ambassade. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut amener cuisine, mais il faut amener tout, quoi. Hein. Il faut même exiger du courant électrique, parce que le matériel électrique de cuisine est énergivore. Et Saïgon a été privé une partie de son courant pendant ce déjeuner, hein, parce que le courant qui passait devant l'ambassade était insuffisant. Et bien sûr que ça se passe rarement à l'étranger, en dehors des pays européens, ça se passe rarement facilement. Mais ça va jusqu'au bout. Hein. Je n'ai jamais eu d'opération qu'on a dû à moitié allumer parce qu'on n'était pas arrivé. Moi, je n'ai pas connu en tout cas.
On est arrivé sur place, on n'avait pas des frigos adéquats.
Joël Normand, chef des cuisines de l'Élysée. De 1984 à 2004.
Dans certains pays, on avait des frigos de ménagères. Des fois, c'était des bureaux qui ont été aménagés comme en cuisine. Donc, vous voyez un peu le travail. Bon, on arrivait quand même à faire face. Ça, c'est sûr qu'on arrivait à faire face. Mais moi, je dormais pas trop tranquille. Ah, non, non, non. C'est dommage, c'est sous M. Chirac. Les voyages ont été annulés après. Il a aboli les voyages. Moi, les derniers voyages que j'ai faits, c'était en Afrique. Alors, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, c'est dommage parce que nous, on partait à l'étranger. Déjà, au point de vue prix de revient, je pense que ça coûtait moins cher à l'État. Parce que nous, on emmenait toute notre nourriture, il n'y avait pas de bénéfice à faire. Nous, on travaille à l'Élysée ou qu'on travaille à l'étranger. Qu'on parte dans un avion, les avions, il y a quand même 3 ou 4 avions qui partent. Il n'y avait pas un avion supplémentaire pour nous. Donc, on pouvait le faire. Et en même temps, c'était l'image de la France à l'étranger. Nos produits, les produits français, le fromage, enfin tous les produits français, c'était la gastronomie française qui était représentée à l'étranger. Et ça, c'est important, même pour les producteurs, même pour tout le monde.
Dans les cuisines de l'Élysée, avec son chef Bernard Vaussion, assisté de Guillaume Gomez.
Et comment vous vous situez, vous, en tant que chef cuisinier, par rapport aux chefs cuisiniers qui ont leur restaurant? Enfin, je pense au Joël Robuchon, Trois Gros, enfin,
C'est complètement différent.
Alors voilà, pourquoi c'est différent, Bernard Vaussion? Parce que quand même, vous êtes aussi des très très grands chefs.
Mais avant tout, pour le même travail, voilà, on n'a pas... Non, c'est un peu différent, mais bon, eux ont une carte à laquelle ils se tiennent, et nous, il faut essayer de faire différent, parce que tous les jours, voilà, c'est une grosse différence déjà, ça.
Et c'est une complication pour vous.
Oui.
Une différence aussi essentielle, c'est que les clients, quand ils vont dans ces restaurants-là, ils y vont pour la cuisine de Joël Robuchon, ils y vont pour la cuisine de Monsieur Trois Gros. Nous, quand ils viennent à l'Élysée, ils ne viennent pas pour la cuisine de Bernard Vaussion ou de Guillaume Gomez. Voilà. Donc nous, on doit rester très en retrait, très effacé par rapport à ça. Et nous, on a un client pendant le temps d'un mandat, d'un quinquennat. Pendant 5 ans, on a le même client, qu'il ne se passe rien. Ça ne peut pas s'arranger en offrant le repas ou avec une coupe de champagne comme dans ces restaurants-là. Quoi.
Ils ont leur propre volonté d'impliquer leur façon de vivre et de manger. C'était le cas pour François Mitterrand, qui a toujours été assez critique sur la cuisine à l'Élysée. Lors des opérations à l'étranger, me voyant, il me disait « Vous n'allez pas me faire manger comme à l'Élysée, quoi. » Il était quand même assez critique. Bien que ce qu'on lui servait était toujours de qualité, avec des produits de qualité, mais lorsqu'il était en colère et qu'il n'avait pas apprécié, il m'avait fait manger du congelé, alors qu'il n'y avait pas de congélateur à l'Élysée. Mais c'était toujours très dur, hein. Ils trouvaient que les fromages n'étaient pas à la hauteur, que le pain n'était pas bon, que la viande était infecte, bon, et qu'il fallait faire bouger un peu les choses. François Mitterrand, ce n'était pas du genre à dire merci bien, merci beaucoup tous les cinq minutes. De l'instant qu'il disait rien, c'est que tout allait. Moi, il me convoquait quand il y avait matière. Des fois à raison, des fois à tort. Mais je me souviens d'un dîner semi-privé où on lui avait fait un menu particulier, mais on avait obtenu des ormeaux, les produits de la mer, il adorait, des ormeaux et puis des lamproies. Mais c'était pour ses invités. Lui, on lui avait fait un autre menu. Et il avait mangé son menu plus les lamproies à la bordelaise et les ormeaux. Qui connaît la Bretagne sait que les ormeaux, c'est assez lourd à digérer, c'est très bon. Mais le soir, il n'avait pas dormi. Et le lendemain matin, ça a duré une demi-heure dans ses appartements en me disant qu'on avait voulu le rendre malade. J'ai beau expliquer que les ormeaux le soir, c'est pas terrible. Mais j'ai dû me convaincre. Mais cinq minutes après, c'était fini.
Est-ce qu'il était satisfait, Valéry Giscard d'Estaing?
C'est-à-dire comme
parce que je crois que vous avez eu quelques... on va y revenir, mais oui. Ça n'a pas été facile avec Valéry Giscard d'Estaing.
Non, parce que c'était le... Bon, on ne peut pas trop se plaindre, parce qu'on a beaucoup voyagé dans les pays du monde. Bon, il voulait qu'on soit les meilleurs de France et les meilleurs du monde. Bon, déjà, c'est déjà pas facile avec lui, parce qu'il était vraiment tatillon. Ça allait toujours. Il y a toujours un mais avec lui. Mais... Même dans l'avion, on s'est vu dans l'avion, revenant d'un voyage officiel, on avait un dîner. On était dans l'avion présidentiel, et il sort de son appartement, et il vient voir derrière, tout le staff qu'il y avait derrière, et il s'adresse au chef de cuisine, qui était Monsieur Le Cerveau à l'époque. Il lui dit, chef, félicitations pour le dîner, c'était très bien. Alors nous, on attendait le mais, parce qu'il y a toujours un mais. Vous féliciterez votre brigade, c'était très très bien. Mais, le mai est arrivé. Il y avait un petit peu trop de gelée sur le foie gras. Giscard, c'était toujours comme ça.
Et est-ce que vous avez eu le sentiment, Francis Loiget, toutes ces années, d'être au service de la République? Parce que c'était un choix aussi de rester dans la cuisine de l'Élysée. Ça vous intéressait de travailler à l'Élysée?
Ah, bah oui, parce que si je ne me serais pas appelé à l'Élysée, j'aurais été chez un pâtissier normal. J'aurais repris la pâtisserie à mon père, oui, c'est sûr.
Et qu'est-ce que vous trouviez particulièrement intéressant, justement?
À l'Élysée?
Oui.
Bah, c'est-à-dire, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait faire des décors qu'on voulait, on n'avait pas de budget. Bon, puis c'était quand même un prestige.
C'était prestigieux.
Déjà, bon, puis suivre le président partout, déjà dans tous les pays étrangers, chose que j'aurais pas fait ailleurs, ou même chez moi. À l'Élysée, ce qui est le plus difficile, c'est de garder sa place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la place. Alors, c'est ça qui est dur. Bon, puis arrivé à la fin, on a l'âge à la retraite. Madame Chirac voulait que je reste 2 ans de plus pour finir le quinquennat. Je lui dis non, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai 60 ans, je m'en vais. J'ai pas eu le temps de m'occuper de mes enfants. Là, je vais m'occuper de mes petits-enfants.
Vous, Joël Normand, tous les cas, en tant que chef de cuisine, à chaque changement, alternance politique, d'une certaine manière, vous craignez pour votre place
hein, tout le temps, oui. Bah, c'est toujours les chefs qui sont en tête de liste. Déjà, vous voyez, bon, tous les conseillers, tout ça, bon, eux, c'est automatiquement, ils partent. Ils suivent le président où ils sont affectés dans un autre ministère ou dans un autre endroit. J'ai eu la chance de passer à travers. Quoique...
Ça a été juste à un moment donné.
Avec M. Ouais. Mitterrand, ça a été juste, étant donné que M. Mitterrand aurait peut-être souhaité avoir un autre chef. Jacques Lande avait prospecté, sous les ordres de M. Mitterrand, d'aller voir Joël Robuchon justement pour qu'on trouve un chef pour me remplacer, non, j'étais pas nommé, mais pour mettre en place, pour remplacer Monsieur Le Cerveau. Et Joël Robuchon a répondu que, étant donné que j'étais meilleur ouvrier de France, on ne fait pas ça à meilleur ouvrier de France. Joël avait dit, vous avez un meilleur ouvrier de France à l'Élysée, je ne vois pas pourquoi vous voulez changer. Je suis fier d'avoir servi tous ces grands de ce monde, d'avoir servi tous les chefs de l'État, les 5 présidents de la 5e République. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très heureux d'avoir fait une carrière comme j'ai fait.
Eh bien voilà, ce premier dîner officiel de l'Élysée, ce premier dîner au cours du séjour de Sa Majesté la Reine Élisabeth II vient de se terminer. Les convives, peu à peu, gagnent la sortie et il ne me reste plus maintenant qu'à redonner l'antenne à notre studio. Ici, la salle des fêtes de l'Élysée, radiodiffusion et télévision française.
Merci Raymond Marcillac de nous avoir fait assister à ce dîner officiel offert par M. René Coty à Sa Majesté la Reine Élisabeth II et le Prince Philippe, duc d'Édimbourg, comme si nous y étions.
Merci à Francis Loiget, Joël Normand, Bernard Vaussion, Guillaume Gomez, André Gadeau et Camille Daven. Merci également à l'équipe des cuisines de l'Élysée. Archivina, Marie Jarros et Aurélie Marsay. Lecture, Marie-Vonna Bolivier. Prise de son, Yvan Turc et Stéphane Poitvin. Mixage, Alain Joubert. Dis-moi comment l'on mange à l'Élysée, je te dirai ce qu'est la France. Un documentaire de Séverine Yatard, réalisé par Charles Trout.
Un documentaire qui avait été diffusé sur France Culture le 5 janvier 2010, dans une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des repas.